La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri. La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de la mêlée de l'info. Merci d'être fidèle chaque semaine à cette émission dont je salue les invités du jour. Christian Autier, journaliste et écrivain, et Bruno Cyr, professeur agrégé en économie et gestion, ex-président de l'Université Toulouse-Capitole. Bienvenue aussi à tous les deux et merci d'être présents au rendez-vous de la mêlée. Ce dimanche 15 mars, dans toutes les communes de France, de la plus petite à la plus grande, va avoir lieu le premier tour des élections pour désigner nos futurs maires. On l'aurait presque oublié alors que les médias se focalisent depuis près de deux semaines sur le conflit au Moyen-Orient. Il est vrai aussi que la campagne pour ces municipales a été un peu atone dans l'ensemble, à quelques exceptions près. À 13 mois de la présidentielle, quels sont, selon vous, les enjeux principaux de ce scrutin? A-t-il, plus que de coutume, une dimension nationale, bien qu'on aime à dire qu'il se joue avant tout sur des particularités locales, autour desquelles s'affrontent des personnalités tout aussi locales? Christian Autier, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'il n'y aura pas, pour utiliser le vocabulaire d'usage à propos de ces rendez-vous électoraux, il n'y aura pas de vague rouge, de rose, verte ou bleu ou je ne sais quoi. D'une part parce que le paysage politique actuel est tellement décomposé, enfin fracturé,
atomisé,
que voilà, on n'attend pas d'un parti des victoires significatives. D'autre part, comme vous l'évoquiez, il est vrai que pour l'énorme majorité, je crois qu'il y a 36 000 communes en France. L'énorme majorité, ce sont des enjeux locaux avec des candidats pour les plus petites communes qui sont souvent sans étiquette où l'appartenance est vraiment extrêmement secondaire. Donc après, les partis peuvent s'amuser à dire voilà, on a gagné tant de communes, mais enfin ça reflète pas forcément la réalité partisane et électorale. Et ce qui sera intéressant, mais j'allais dire comme souvent, effectivement, ce sont les grandes villes, les enjeux à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nice. Là, les observateurs vont s'y intéresser. Et là, ça traduira pas forcément des rapports de force dans la perspective de la présidentielle, si ce n'est peut-être, moi je vois à Paris, oui, où le fait que le camp, comme on dit désormais, le bloc central, soit incapable de s'unir et apparemment même encore plus de s'unir dans un hypothétique deuxième tour, donc c'est-à-dire Rachida Dati, LR et Bournazel qui représentent Horizon, enfin LR, Modem et Renaissance, je crois. Voilà, ça en dit beaucoup, puisque le bloc central aujourd'hui a eu 8 ou 10, 12 candidats putatifs, au bloc central, LR, Renaissance, Modem, Horizon, pour la présidentielle qui est dans moins d'un an et demi. Donc là, c'est un petit signal. Et ensuite, l'autre chose à surveiller, alors qui nous intéresse nous aussi, j'allais dire ici à Toulouse plus particulièrement, c'est le rapport entre le PS et LFI, puisque les représentants du PS et de Place Publique, les plus hauts représentants, je pense à François Hollande, Raphaël Glucksmann, Cazeneuve et d'autres, ont juré leur grand Dieu qu'il n'y aurait aucun accord, que c'était désormais impossible avec ce parti désormais infréquentable, passionnément antisémite, pour reprendre l'expression cette fois de Raphaël Enthoven. Donc là, on demande à voir s'il y aura effectivement aucun accord, aucun désistement, au deuxième tour, et s'il y aura ce qu'appelle de ses voeux Jean-Luc Mélenchon, au pire des fusions techniques, c'est-à-dire voilà, officiellement ils ne soutiendront pas la majorité, mais enfin ils en feront partie.
Oui, on va tout à l'heure s'intéresser plus précisément aux deux points que vous venez de soulever là, sur l'élection parisienne, qui est toujours symbolique évidemment, c'est la capitale du pays, et puis sur les possibles unions ou non-unions, alliances au second tour entre la France Insoumise et les autres partis de gauche, PS en tête. Vous, Bruno Cyr.
Alors, moi, je votre pense avis. On est tous à peu près d'accord sur le constat qui vient d'être fait par Christian Autier. Je ne pense pas qu'il y ait une vague d'un côté ou de l'autre. Et je pense que ce sont quand même encore des élections où on vote principalement pour des hommes, une équipe que l'on connaît, etc. Donc c'est comme ça. Mais effectivement, les grandes villes, les grandes métropoles, qui ont été citées, sont un peu différentes, parce que là, la relation humaine entre les électeurs et les candidats est quand même beaucoup plus distante, et donc reviennent des logiques d'appartenance à des partis politiques et à des courants de pensée ou d'idéologie. Donc dans ce contexte, ce qui va être intéressant de mon point de vue à observer, c'est justement comment les appareils vont se comporter, les appareils des partis politiques, et comment localement les gens vont suivre les consignes des appareils. Bon, effectivement, si on prend, par exemple, Toulouse, c'est quand même l'exemple le plus facile pour nous, si on prend Toulouse, la chance que le Rassemblement national arrive au second tour apparaît quasiment nulle, ou peu probable. Et donc, là, ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, tête du parti LFI, c'est: nous n'envisageons des rapprochements techniques que dans les villes où il y aura une menace que l'extrême droite arrive au pouvoir. Mais ça ne saurait être le cas à Toulouse. Donc, moi, je m'attends à ce que le candidat d'LFI, dont on peut penser qu'il va faire plus de 10% des voix, se maintienne au second tour. Ce qui mettra en difficulté le candidat PS. Mais c'est ça qui va m'intéresser, c'est de voir comment la cohérence entre ce qui a été dit au niveau parisien ou même au niveau régional ici, puisque Mme Delga, la présidente de la région, a bien dit qu'il ne fallait absolument pas d'alliance, et donc elle parlait pour ses troupes, entre guillemets, dans la région Occitanie, et Toulouse évidemment est au premier chef. Je vais voir comment se comporte le candidat du PS et de LFI localement. Est-ce qu'ils vont quand même se rapprocher? Parce qu'il y a une chose, moi, qui m'amuse toujours, finalement, après coup, c'est: on met en avant toujours les grands principes, alors avec des trémolos dans la voix, mais ensuite on a des comportements de boutiquiers. Il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que les grands principes, c'est, il n'est pas question d'eux, et puis le mardi qui va suivre le premier tour, vous savez, le mardi soir, il faut déposer les listes.
Oui, donc il faut que ce soit fait le lundi.
Donc il faut que ça soit fait entre le lundi et le mardi matin.
Le lendemain de l'élection du premier tour.
Donc les listes doivent être déposées le mardi soir. Moi, je veux voir qu'est-ce qui va se passer le lundi et le mardi
tout
matin.
Tout le monde attend ça, évidemment.
Et là, les calculs de boutiquiers, à mon avis, vont vite reprendre le pas sur les grands principes qu'on aura modestement oublié, occulté, etc. Et donc tous ces gens qui passent leur journée à nous donner des leçons, j'attends de voir ce qu'ils sont réellement mardi soir.
Oui, alors ce point a été évoqué. D'après vous, quelles sont les métropoles et grandes villes où les mairies pourraient basculer par rapport à la situation actuelle, par rapport à l'élection de 2020? Est-ce qu'il y en a certaines où vous sentez que ça pourrait clairement changer de camp. Alors, il y en a quelques-unes qui viennent à l'esprit, mais Christian Thier, vous avez peut-être déjà repéré certaines métropoles où il va être intéressant de suivre les résultats du premier tour.
Je crois que Lyon devrait être une ville particulièrement disputée. Marseille, il y a quand même un assez faux suspense, je pense. Après moi, je pense que le candidat socialiste devrait se maintenir. Mais et après, quand on vit à Toulouse, l'inconnu de Toulouse est quand même intéressant, au-delà de nos attaches particulières, parce que c'est quand même une des villes les plus indécises, où les sondages donnent, même les sondages qui, bon, enfin, ils sont dans la marge d'erreur, quoi, pour le second tour.
Oui, même pour celui qui arrivera en tête.
Et pour nuancer, enfin, ce que disait Bruno Cyr, effectivement, LFI appelle à faire barrage contre l'extrême droite, mais enfin, dans leur rhétorique, la notion d'extrême droite peut devenir très large. Donc, on peut être LR et devenir d'extrême droite le lundi soir et se transformer en un diable auquel il faut faire barrage. Mais non, je crois qu'il n'y aura pas vraiment. Et Paris, là aussi, enfin, il y a toujours un suspense. Mais Paris, me semble, avec la division qu'on évoquait, me semble promise une nouvelle fois à la gauche, et ce qui est quand même une performance, parce que la municipale présidentielle à Paris, on avait vu déjà le camp, entre guillemets, le majorité au bloc central se diviser, et alors que Anne Hidalgo était quand même très impopulaire.
Elle est très critique.
Et là, son héritier va prolonger l'héritage. C'est quand même une performance qui doit, pour beaucoup, aux adversaires, donc ça devrait les faire réfléchir. Mais comme vous le disiez, l'esprit boutiquier et les ambitions personnelles sont aussi au cœur de ces scrutins.
Alors il y a une ville aussi qui me semble intéressante, c'est Nice, parce que là il y a une lutte quasi fratricide, au sens où les deux concurrents principaux étaient il n'y a pas si longtemps dans le même parti, LR, donc Christian Estrosi, le maire actuel, et Éric Ciotti. Vous imaginez que Éric Ciotti pourrait, ce serait quand même, mine de rien, un coup de tonnerre, parce que c'est une des plus grandes villes de France, et aujourd'hui Éric Ciotti est l'allié du RN déclaré, c'est pas quelque chose...
Un coup de tonnerre, oui et non, parce que franchement, entre Ciotti et
comment ça s'appelle, Estrosi,
il n'y a pas une grosse différence, si vous voulez. Il faut pas exagérer.
Oui, sauf qu'il y en a un qui est l'allié du RN et l'autre qui est plutôt du côté macroniste.
Savez, les électeurs font le tri et on ne peut pas dire que... c'est ce qui m'a toujours agacé, si vous voulez. Quand il y a 20% des Français qui votent soi-disant pour un parti d'extrême droite, est-ce qu'il y a vraiment 20% des Français qui sont d'extrême droite et qui veulent une politique fasciste? Non, je ne pense pas que notre pays en soit là. Donc simplement, ils en ont marre d'une certaine politique et ils vont donc vers des gens qui leur paraissent présenter autre chose ou qui n'ont pas été au pouvoir, et ils se disent peut-être qu'avec eux ça va changer. Mais ça s'arrête là, si vous voulez. Donc pour moi, ça ne sera pas un coup de tonnerre. Non, je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de voir les villes qui étaient tenues par les Verts. Est-ce que les Verts vont les garder?
Donc Lyon, là, Bordeaux, Grenoble.
Grenoble, bon. Là, on va voir, parce que les Verts, c'est pareil, ce sont de grands donneurs de leçons. Ils sont toujours à nous expliquer qu'eux savent absolument ce qu'il faut faire et que les autres ne comprennent rien. Mais enfin, quand on voit leurs électeurs, ils sont peut-être un peu déçus, d'après ce que je comprends à travers les sondages, par la politique de ces soi-disant gens formidables. Donc là, ça va être intéressant, parce qu'il peut y avoir des sanctions. C'est pas entre Estrosi et Ciotti, ça fera pas une sanction, si vous voulez. Mais en revanche, si Lyon bascule sur Aulas, si Bordeaux bascule, si Grenoble bascule, ça veut dire que les Verts seront
Toulon
sanctionnés.
Aussi,
et ça, ça me paraît une bonne chose, parce que c'est vrai que Europe Écologie Les Verts, finalement, est un parti qui est extrêmement idéologisé, alors qu'on peut attendre, et il y a beaucoup de gens qui ont une sensibilité écologique, qui veulent qu'on s'occupe de l'environnement, etc.
Bah, c'est une des préoccupations principales des citoyens.
Et qui ne se retrouvent pas dans ce discours extrêmement idéologique. Donc voilà, peut-être que ça amènera les gens qui ont cette sensibilité, soit à créer un autre parti à côté s'ils ne sont pas contents de celui-là, soit à faire évoluer celui-là, ou à pousser celui-là à évoluer.
Christian Thier, justement, on dit plus Europe Écologie des Verts aujourd'hui. Il faut dire les écologistes, ce sont qui me l'ont fait remarquer.
Il y a beaucoup de gens
qui me l'ont fait remarquer. Est-ce que c'est finalement le parti qui a peut-être le plus à perdre pour ces élections municipales?
Oui, sans doute symboliquement, effectivement, à travers les villes que vous avez citées. Et l'ironie, alors si c'était le cas, l'ironie, ce serait que dans la perspective d'une victoire de François Briançon qui est allié aux écologistes, c'est que Toulouse, elle, aille à contre-courant et mette
des en métropole en 2020 qui
Régis,
s'était maintenu,
Régis Godec à la tête de la métropole, donc ce qui est prévu dans le raccord.
Dans le raccord.
Mais oui, les Verts, ce sera intéressant, effectivement, beaucoup plus que Nice, effectivement, où Éric Ciotti fait partie du paysage niçois, était l'héritier putatif depuis des années, le rival naturel d'Estrosi à l'intérieur du même parti. Donc ça ne dénotera pas. Et d'ailleurs, le RN, même s'il aura énormément de voix, ne va pas gagner beaucoup de municipalités ou conservera-t-il celle qu'il a. Peut-être Toulon, mais donc voilà, ça montre encore une fois la décorrélation entre les enjeux locaux et les enseignements nationaux qu'on pourra en tirer. Pour les Verts, oui, ce sera intéressant.
Alors vous parliez du RN, et on va mettre l'UDR avec, puisque c'est son allié. D'ailleurs, dans beaucoup de villes, ils ont des candidatures communes, hein, des candidats qui sont soutenus par les deux partis. Et donc, les sondages, au premier tour, encore une fois, hein, c'est peut-être là qu'on va plus voir la dimension nationale de ces élections municipales, indique une forte percée du RN. Bon, c'est pas étonnant quand on voit les scores annoncés pour Jordan Bardella à la présidentielle l'année prochaine. Et est-ce que vous pensez que malgré cette percée en voix, effectivement, c'est ce que vous disiez, Christian Thier, ils ne vont pas remporter de grandes villes ou même de villes moyennes par rapport à la situation précédente de 2020?
Oui, de toute façon...
À part Toulon, peut-être, effectivement.
À part Toulon, effectivement, mais parce que le RN souffre, on le sait depuis longtemps, de sa marginalisation, malgré tout, politique.
Il n'y a pas de réserve de voix.
Il y a des petites formations avec lesquelles ils peuvent s'allier localement, mais c'est tout le problème du RN, alors qu'il peut être transcendé, peut-être, ça va se dépasser dans le cadre d'une élection présidentielle, puisque l'écart d'élection en élection se réduit et que les projections pour la prochaine sont encore plus indécises. Mais les élections municipales sont pas des élections pour un parti comme le RN qui retrouve face à un barrage, qu'il existe ou pas dans les urnes, face à un barrage entre guillemets républicain ou tout simplement électoral.
Oui, moi je crois que le RN et LFI ne font pas de cette élection municipale un enjeu prioritaire. Et en revanche, moi j'ai une analyse, alors un peu, je ne sais pas si elle est vraie, mais j'attends de voir la suite. Je pense que dans les deux cas, le Rassemblement National comme LFI, ils ne vont pas faire des regroupements. D'ailleurs, Mme Le Pen l'a déclaré hier, je crois, oui, en disant il n'y aura pas au second tour de fusion, de liste, etc., ou de consigne de vote, même.
Mais c'est même pire que ça, parce qu'elle annonce que c'est quand elle demandera à ses candidats
se maintenir s'ils font plus de 10% des votes.
Oui, bien sûr, bon. Mais ça veut dire qu'il y a des triangulaires dans ce cas-là.
Moi, je vous prends le pari que LFI fera pareil. C'est-à-dire qu'à beaucoup d'endroits, ils vont se maintenir. Et pourquoi? Au fond, les deux partis ont le même intérêt: donner une leçon à leurs alliés potentiels. LFI voudra donner une leçon au PS en leur disant, vous voyez, si on se maintient, vous n'existez plus. Et le RN a intérêt à faire pareil. Si on se maintient, vous n'êtes pas élu. Et donc, leur objectif, c'est les législatives après. On sait très bien que dans 2 ans, il y aura les présidentielles, bien sûr, mais derrière les législatives. Et aux législatives, leur diront, vous voulez qu'on recommence? Donc là, je pense qu'ils auront plutôt intérêt, enfin c'est une analyse personnelle, évidemment je ne l'ai jamais entendu ailleurs, mais je ne serais pas surpris qu'ils se maintiennent partout pour faire perdre et donner un coup de semonce à leurs alliés potentiels en leur disant le coup d'après vous réfléchirez avant de dire que vous ne voulez pas nous aller.
Vous êtes d'accord, Christian Thier?
Pour le RN, pronostic. Oui, enfin, le RN, il n'y a aucun doute qu'il va se maintenir, et de toute façon il l'a fait dans la plupart des élections. Alors moi pour LFI, je ferais le pari inverse. Moi, je me trompe peut-être, on a une chance sur deux, mais je crois qu'ils vont faire profil bas et montrer patte blanche et se retirer dans les villes où il y aura, s'il n'y a pas d'alliance, s'ils ne concluent pas d'alliance déjà avec le PS, ils se retireront pour montrer, avec toutes les dernières polémiques qu'il y a eu, où ils sont quand même en ce moment très marginalisés, attaqués, depuis la gauche avec, dans des termes qu'on n'avait jamais entendus, pour montrer qu'ils sont finalement des gentils garçons, qui sont disciplinés, qui sont prêts à se sacrifier pour que la gauche gagne, puisque l'objectif de Mélenchon...
Ou pour que la droite ne gagne pas.
L'objectif de Mélenchon, comme ils vont sacrifier leurs intérêts sur l'autel de l'Union, dont les autres, les méchants socialistes, les sociotraîtres ne veulent pas, mais ils sont tellement purs qu'ils vont se sacrifier. Et l'objectif de Mélenchon, plus que les législatives, c'est la présidentielle, où là, il sait qu'il ne gagnera pas, mais il veut être au second tour face à Jordan Bardella, devenir le rempart, enfin, c'est toute sa dialectique qui est développée ces dernières semaines, ces derniers mois, les fachos contre nous, et moi ou le chaos, il sait qu'il ne gagnera pas, mais après il espère, enfin, c'est ce que disent certains observateurs du mouvement, un troisième tour, comme on dit, dans la rue, le chaos, la pagaille, et voilà, et, une situation quasi insurrectionnelle. Mais je crois qu'en ce moment... Enfin, peut-être que je me trompe, d'ailleurs j'espère me tromper, mais je pense qu'ils vont faire profil bas dans les endroits importants, Marseille, Toulouse, et qu'ils vont pas empêcher la gauche de l'emporter.
Oui, parce qu'il peut y avoir aussi d'autres arrangements, c'est-à-dire de se retirer effectivement au municipal pour laisser le candidat de gauche arriver devant eux, battre le camp du Bloc central ou de droite ou du RN qui est face à lui au second tour, mais aussi en négociant peut-être... pour les législatives de l'année prochaine, le fait que dans certaines circonscriptions où les gens de la France insoumise ont des députés, eh bien qu'on ne mette personne en face d'eux, côté PS ou les autres formations de gauche. Ça, c'est quelque chose qui pourrait peut-être se passer. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Cire ?
Oui, non, c'est...
Ça peut être des coups de billard.
Je pense que les deux scénarios que nous avons décrits sont possibles. Je crois quand même que Mélenchon est dans une radicalité qui ne va pas s'estomper parce qu'elle s'accroît, elle se creuse de plus en plus depuis un certain nombre d'années. Donc je ne vois pas qu'à son âge, avec tout le parcours qu'il a, il fasse un virage à 180 degrés. Donc cette radicalité et son public, je crois qu'il va la garder. Et de ce fait... une partie de la gauche ne pourra plus quand même jouer avec lui. Et donc là, je crois que c'est un peu irréversible. Ce qui fait qu'à mon avis, l'intérêt du PS, c'est pas tellement de dire « Ah ben finalement, comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant systématiquement, finalement, on s'aime pas beaucoup, mais quand il faut partager le gâteau, on va s'entendre entre nous. » Je crois que là, il y a des étapes qui ont été franchies, pas pour toute la gauche, mais pour une partie de la gauche. Et donc, aux législatives, je ne pense pas qu'il y ait des accords qui puissent être menés d'appareil comme ça, sauf peut-être ponctuellement, marginalement, mais pas nationalement.
Alors, effectivement, vous dites quelque chose qui est important, c'est que ça peut être la volonté de Mélenchon. Il peut demander à tous ses candidats de se maintenir parce qu'il veut faire perdre les gens du PS, mais est-ce que ces candidats localement vont le suivre ?
Ah ben vous
ça,
savez,
c'est peut-être moins sûr.
Non mais attendez, Mélenchon et le parti LFI est devenu un parti extrémiste dans le sens où ils ont le culte du chef, le parti unique et la pensée unique, si vous voulez. Donc, et tout ce qui n'est pas comme eux est à brûler. Hein. On l'a bien vu, ils traitent tout le monde d'extrémistes, d'antisémites, dès lors qu'on est à peine un peu à la droite de leur extrême gauche. Donc je pense que non. C'est un parti où il y a un seul chef.
Et ceux qui vont le doigt sur la couture du pantalon.
Ah ben oui, parce que ceux qui vont déroger au mot d'ordre, ils seront virés. On l'a déjà vu, hein. Les Garrido, les Ruffin, etc. C'était pourtant des poids lourds dans le parti. Ils se sont fait virer du jour au lendemain parce qu'ils avaient osé dire au chef qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Donc, je suis pas sûr que les gens prennent leur autonomie. Là.
On aura la réponse lundi, comme vous l'avez annoncé, puisqu'ils ont jusqu'à mardi matin pour faire le dépôt des listes de second tour. Donc s'il doit y avoir des fusions, ce qui est très compliqué de fusionner deux listes, on est bien d'accord, parce qu'il faut récupérer des candidats de l'autre liste sur la sienne. Normalement, il faut aussi récupérer des mesures du programme de l'autre liste sur la sienne. C'est pas quelque chose... Si ça se fait, ça veut dire que c'est déjà dans les tuyaux. Ça va pas se décider entre le dimanche soir et le lundi soir, j'en doute.
Ils sont capables de tout.
Oui. Alors, on va revenir quand même à Paris, parce qu'il me semble, moi, que le résultat du premier tour des municipales à Paris va être particulièrement scruté et analysé. Bon, d'une part, en raison, comme je le rappelais, du fort enjeu symbolique que représente la mairie de la capitale, et d'autre part parce que le second tour à venir aura peut-être, sans doute, je crois, valeur de test en vue des champs de 2027 suivant les choix d'alliance ou de non-alliance, ou de désistement ou de non-désistement que feront les candidats qualifiés pour le second tour. Il est clair qu'une alliance entre Rachida Dati et Sarah Knafo, qui, je le rappelle, n'est pas au RN, elle est à Reconquête, c'est pas la même chose, serait une grande première dans le sens de l'union des droites, c'est ce que semble proposer Sarah Knafo. Bon, Rachida Dati a juré ses grands dieux qu'on ne les prendrait pas, mais suivant les...
On va pas jouer à les grands dieux.
Ouais, suivant les interviews, elle est plus ou moins, elle a l'air plus ou moins convaincue et convaincante d'ailleurs. Alors, est-ce que vous croyez que ça ne peut pas arriver, ça, Christian Autier, ce rapprochement? Il changerait beaucoup la donne.
Non, enfin, je n'y crois pas. Elle se couperait de... Elle perdrait immédiatement pour leur...
Une partie de son électorat visée, du premier
alors,
tour.
Je ne sais pas, les 12% que ferait éventuellement, enfin, Sarah Knafo n'est pas encore...
Dans certains sondages, elle est à 13. Bon, on verra bien ce qu'il en sera.
Oui, voilà, on est dans la marge d'erreur, donc elle n'est pas encore qualifiée pour le second tour, mais elle prendrait un risque politique, c'est-à-dire elle en perdrait autant sur son aile gauche qui la soutient. Je dis, le véritable défi pour elle, c'est la candidature d'Horizon. Voilà, c'est d'abord ça, c'est ces électeurs-là qu'il faut aller chercher.
A priori, ce serait plutôt là, effectivement.
Et je pense que plus que la dizaine de pourcents est hypothétique de Sarah Knafo. Et s'il y avait eu déjà une candidature unique au premier tour, du moins pour les opposants centraux, voilà, la messe serait quasiment dite.
Oui.
Oui, ce qui est possible, en revanche, c'est que Sarah Knafo se désiste sans condition. Ça, c'est possible, en disant, bah, écoutez, il y en a marre de la...
Pour faire battre la gauche.
La gouvernance des socialistes, ça fait 25 ans que ça dure, on voit dans quel état est Paris. Et c'est vrai que, moi qui suis régulièrement à Paris, je trouve que quand même, ça s'est pas arrangé depuis quelques années. Donc, elle peut très bien faire ça. Une entente d'appareil, ça, j'y crois pas, parce qu'effectivement, comme le dit Christian Autier, elle risquerait d'en perdre autant de l'autre côté, donc ça serait un jeu à somme nulle, peut-être, mais ça la ferait pas gagner. En revanche, Sarah Knafo, elle sait qu'elle sera pas élue, elle sait que si elle peut se maintenir, elle va jouer les grands seigneurs en disant « voyez, moi ».
Et ça, bah, d'autant ça, plus qu'elle sera assurée pas... de rentrer au conseil municipal de Paris, en revanche.
Oui, bon,
à partir du moment où elle fait plus de 10, voilà, elle sera.
Voilà,
elle siégera.
Donc là,
et certains de sa liste aussi.
Je ne serais pas surpris, moi, qu'elle se désiste en disant il faut faire barrage
pour
à
montrer
gauche,
sa bonne volonté.
Et je le fais sans condition.
Oui. Et autre personne, parce que là, il y a beaucoup de femmes qui sont candidates à Paris. Donc, côté les filles, c'est Sonia Chikirou. Vous la voyez se maintenir au second tour si elle arrive à passer ce qui est annoncé dans tous les sondages, hein, elle est au minimum à 11.
À Paris, oui. Oui. Moi, je la vois se maintenir.
Christian Autier, vous pensez?
Oui, sans doute, oui, si elle peut, puisque là, ce sera symbolique, enfin, ce sera fort symboliquement pour LFI de montrer qu'ils existent dans le scrutin de la capitale. Et je pense que oui, là, ils se maintiendront. Et comme disait Bruno Cyr, de toute façon, les consignes de Mélenchon, ils suivront les consignes de Mélenchon. Sinon,
ils seront décapités
symboliquement.
Sonia Chikirou les suivra à coup sûr.
Voilà, ils sont virés du parti dans la seconde. Donc oui, ce sera... Et oui, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. L'attitude de LFI, c'est vraiment un des enjeux, un des intérêts de cette élection.
Ce qui veut dire qu'à Paris, ça se jouerait sur le vote au second tour des électeurs de Pierre-Yves Bournazel au premier. Parce qu'il n'est pas garanti que tous vont se reporter sur Rachida Dati, c'est pas certain du tout.
Non, mais ils vont pas non plus. Soit ils iront pas voter, et dans ce cas-là, leur vote n'est pas pris en compte. Soit ils vont pas aller voter Chikirou. Je pense que les gens qui vont voter Bournazel, c'est vraiment LFI, ça me paraît incompatible. Alors il y en a toujours peut-être quelques-uns, mais...
Et le scénario que vous décrivez, je reprends ce que disait Christian Autier au début de son intervention tout à l'heure, laisserait entendre que dans ce cas-là, je ne vois pas comment Emmanuel Grégoire pourrait gagner. À partir du moment où Sonia Chikirou se maintient, et si Sarah Knafo se retire laisse ses électeurs libres.
C'est Rachida Dati, c'est l'alternance. Mais au fond, l'alternance, c'est bien en démocratie, non?
Ah oui, ça sera aux électeurs d'en décider. Mais écoutez, justement, la balle est maintenant dans le camp des électeurs. Les résultats du premier tour seront connus ce dimanche 15 mars, un peu après 20h, en tout cas dans les grandes villes. Il est probable que nous les commenterons la semaine prochaine dans cette émission. En attendant, c'est le moment pour nous de faire une petite pause avant de reprendre nos échanges. On revient au direct dans une vingtaine de secondes. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Je retrouve mes deux invités, l'écrivain et journaliste Christian Autier et le professeur agrégé en économie et gestion, avec ce président de l'université Toulouse-Capitole, Bruno Cyr. Le conflit au Moyen-Orient, après les bombardements israélo-américains sur l'Iran et les répliques iraniennes qui s'en sont suivies sur Israël et les pays arabes voisins, ont entraîné, entre autres conséquences, un blocage du détroit d'Ormuz. Et comme on pouvait s'y attendre, il a eu pour conséquence justement une hausse importante du prix du baril de pétrole et du gaz, répercuté rapidement à la pompe à essence et sur les tarifs gaziers en France. Le risque de voir le conflit s'inscrire dans la durée et la crise énergétique se prolonger va jusqu'à faire craindre un nouveau choc pétrolier et une hausse durable des prix de l'énergie, avec les effets délétères qu'on peut imaginer sur le portefeuille des citoyens et les charges des entreprises, sachant que notre pays est déjà en difficulté sur les plans économiques et budgétaires. Est-ce que vous partagez ces craintes et qu'est-ce que vous attendez du gouvernement face à cette situation ? Bruno Cyr, on attend vos éclairages d'experts en économie.
Je crois que là, tout le monde est à peu près d'accord pour se dire qu'effectivement, il y a un après et un avant cette crise du Golfe. Il y aura un après qui ne sera pas le même qu'avant. Et ça va se traduire par un choc pétrolier. Alors, ce n'est pas nécessairement le même choc que celui qu'il y a eu en 73. C'était en 73
et puis en 79.
Et 76 ensuite ou 77. En 73, je rappelle que les pays producteurs de pétrole, l'OPEP, ont décidé de multiplier le coût du pétrole par 4.
Oui, oui.
C'est pas rien, par 4. Bon, on n'en est pas encore là. Hein. Là, on est aux alentours de 100 euros le baril, ça peut peut-être monter.
C'est monté à 115, c'est redescendu à 100.
Ça peut peut-être monter encore un peu, mais on passe de 70-80 il y a 6 mois, ou un peu plus, à 120. Donc, ça, maximum. Donc, ça va doubler. Donc, ce n'est pas la même ampleur. Mais en revanche, le choc différent, c'est la dépendance que nous avons autour du Golfe arabique là, et avec le détroit d'Ormuz qui est une espèce d'artère jugulaire. Et ça, je crois que tout le monde prend conscience aujourd'hui qu'il va falloir apprendre à se passer du pétrole du Moyen-Orient. C'est ça la leçon qu'il va y avoir. Alors, il va y avoir une période de transition qui va être sans doute difficile, dans laquelle, effectivement, ça va rebattre un peu les cartes, mais à l'arrivée, qu'est-ce qui va se passer ? Si on regarde les grandes sphères, les USA sont-ils impactés par le blocage du détroit d'Ormuz ? Non.
Ils ont leur propre
pétrole. Ils ont mis la main sur le pétrole vénézuélien et ils sont extrêmement producteurs de pétrole. Donc, les Américains...
Ils sont même autosuffisants.
Les Américains ne sont pas impactés. Et même, ça revalorise, parce que les prix du pétrole montent quand même, on l'a vu, d'à peu près
tout le monde l'a remarqué.
60 à 80%, mais le prix du baril. Donc, ça revalorise leur stock, en quelque sorte, et leur richesse. La Russie, pareil. La Russie n'est pas impactée par cette chose-là. Au contraire, ils se frottent les mains parce qu'eux, ils ont le pétrole et le gaz. Donc, les continents qui sont impactés, le plus impacté a priori, c'est la Chine. Alors, je vais les prendre un par un parce qu'ils sont tous dans des situations différentes. C'est en ça que cette crise pétrolière n'a rien à voir avec celle des années 70. La Chine, en fait, elle vient de passer des accords avec la Russie. Donc en fait, la Chine a très bien joué le coup, l'a anticipé d'une certaine façon. C'est-à-dire que si demain, évidemment, ils ont besoin du pétrole et du gaz des Moyen-Orient, mais ils ont la ressource avec la Russie. Et donc le rapprochement avec la Russie, là, les sert complètement. Et puis la Chine a annoncé, mais déjà a commencé à le faire, à construire des centrales nucléaires partout. Ils sont devenus les deuxièmes producteurs. Ils sont passés devant la France. Ils ont déjà 59 réacteurs nucléaires et ils ont un programme d'extension qui va très très vite. Et on sait qu'en Chine, quand ils veulent aller vite, ça dépote. Donc la Chine, je crois qu'ils vont arriver à gérer le problème à peu près avec une phase de transition, encore une fois, mais ils vont arriver à le gérer. L'Europe. Alors, l'Europe est sans doute celle qui va être le plus impactée par le problème.
Et la France.
Mais l'Europe est en train de relancer le nucléaire. Donc, en fait, on va apprendre à se passer du pétrole, parce qu'évidemment, les énergies renouvelables, que ce soit le solaire ou l'éolien, c'est pas un truc qui marche, c'est de l'énergie alternative, si vous voulez. Or, on a besoin d'une énergie constante. Donc, évidemment, que le programme nucléaire va être relancé. On avait fait la bêtise énorme en Europe, sous la pression d'une idéologie verte et de gens qui se sont amusés à faire peur à tout le monde. On a fait l'erreur de laisser tomber l'avance qu'on avait, particulièrement en France, mais les Allemands ont fait pareil. Bon, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que si on ne veut pas dépendre des autres, il faut absolument sortir de là. Le deuxième continent qui va être impacté, c'est l'Afrique et l'Inde. Alors, il ne faut pas oublier que l'Inde, 1,3 milliard d'habitants, l'Afrique va être à 1 milliard d'habitants.
2 milliards d'habitants l'Afrique.
Oui, mais ils sont... Donc ce sont des continents qui ont d'énormes besoins. Ils ont beaucoup de ressources, mais ils n'en ont peut-être pas assez. Mais je pense qu'à terme, le Moyen-Orient va se tourner surtout vers eux et va se passer de nous. Mais au fond, d'un mal peut sortir un bien, parce que nous avions... Au fond, fait une erreur, je vais caricaturer un peu le paysage, mais fait une erreur. Oui et non. On a inventé le moteur à explosion. Hein. On a inventé le moteur à explosion, mais sans se rendre compte qu'on n'avait pas de quoi les faire tourner si on n'allait pas chercher ailleurs l'énergie pour les faire tourner. Et donc l'énergie, c'était d'abord en Afrique et puis au Moyen-Orient. Et c'est vrai que du coup, aujourd'hui, tous ces pays nous tiennent en quelque sorte. Et ils nous le font bien sentir. Et là, on voit la conséquence ultime de tout ça. C'est-à-dire que ce sont des pays qui ont des comportements de rentiers, parce qu'eux, ils n'ont rien fait pour avoir le pétrole. Ils étaient là,
il y avait le pétrole
sous...
dessus,
oui. Ils étaient le pétrole sous leurs pieds. Ils se sont contentés de faire des pompes aspirantes et de nous le vendre. Mais c'est une situation qui n'est pas tenable longtemps. C'est sûr que si on veut éviter des conflits sérieux, il faut éviter de dépendre des autres. Parce que si les autres n'ont pas les mêmes intérêts que vous, le jour où vous dépendez d'eux, bah, ils vous le font payer. Donc je crois qu'au fond, ça va amener l'Europe à réfléchir un peu à son autonomie, à son indépendance sur des secteurs clés. On l'avait déjà vu avec l'histoire du Covid et un certain nombre. Mais là, ça accélère ce mouvement.
Mais pardonnez-moi, si on remplace le pétrole que nous achetons essentiellement au Moyen-Orient par l'énergie électrique, si j'ai bien compris, nucléaire, oui. Ça veut dire aussi qu'il faut complètement revoir...
Non, mais l'énergie, une fois qu'on la transforme, comment elle peut... Non, mais c'est sûr que les moteurs thermiques, de toute façon, c'est un peu... On est en fin de cycle. Mais n'oublions pas que quand même, les Américains vont nous vendre du pétrole. Hein. Ça, pour les Américains, c'est une très bonne affaire. Les Américains ont d'énormes réserves. Ils ont mis en plus la main sur le pétrole vénézuélien. Donc nous, même si demain le détroit d'Hormuz est bloqué, on aura le pétrole et le gaz américain. Alors, je fais juste une remarque, parce que c'est pas trop passé dans les médias, mais il y a des choses inquiétantes qui se sont passées il y a 3 jours. Il y avait un énorme bateau rempli de gaz qui arrivait à Saint-Nazaire, et au dernier moment, devant le port, il a fait demi-tour et il est parti en Chine. Ça veut dire qu'il y a une compétition qui va se passer pour que les pays disent non, moi j'ai besoin de gaz, moi j'ai besoin de pétrole. Donc c'est sûr que ça va contribuer à faire monter les prix avec le jeu de l'offre et de la demande. Mais les Américains sont d'énormes producteurs de pétrole, l'Amérique du Sud aussi, et donc je pense que on va diversifier nos appareils. Je pense qu'à terme, ceux qui doivent se faire le plus de soucis, c'est les pays du Moyen-Orient, parce que eux, ils vont voir tous leurs clients.
Sinon, plus débouchés, oui, effectivement. Ben, oui. Surtout, comme vous disiez, que c'est souvent c'est une rente pour eux. Ils n'ont pas grand-chose d'autre pour faire rentrer.
Alors, ils se sont beaucoup diversifiés et ils ont beaucoup investi. D'ailleurs, le nouveau guide suprême d'Iran a une énorme fortune qu'on estime à plusieurs dizaines de millions, avec des immeubles un peu partout. Enfin, ils ont su investir quand même, donc ils sont un peu diversifiés. Ils n'ont pas que ça pour vivre.
Christian Autier, après cette magistrale leçon de macroéconomie géopolitique.
Vous avez cité le Venezuela. Effectivement, moi j'ai repensé à cet épisode pendant cette crise, parce que cette intervention contre l'Iran, enfin ces attaques contre l'Iran, éclaire d'une autre lumière cette opération qui nous paraissait un peu baroque, de débarquer ce Maduro pour le remplacer par sa numéro 2.
En fait, il n'y a pas eu de changement de régime.
Comme Trump l'avait dit assez franchement quelques jours plus tard, bon, c'était quand même pour mettre la main sur les ressources pétrolières, alors qu'ils sont gigantesques. Alors je crois qu'après, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais qu'il est de mauvaise qualité, enfin qu'il faut le traiter, le raffiner, etc. Mais enfin, le Venezuela a des, parmi les plus grosses réserves oui. au monde. Donc c'est intéressant de voir ces deux conflits qui se sont, enfin, c'est l'opération
qui se sont enchaînés quasiment, ouais.
qui se sont répondus, et d'autant plus que évidemment que les plans d'attaque contre l'Iran, Israël ou américain ne datent pas d'il y a 15 jours ou 3 semaines, ça fait des années qu'ils sont dans les tiroirs et que toutes les options ont été envisagées. Après, sur le fond, le fond de cette crise, en même temps, ce conflit entre les Américains, Israël et l'Iran, il est très volatile et très incertain. Alors,
Même les buts de guerre sont incertains.
Les scénarios ouais. d'embourbement, le fait que le conflit durerait des semaines, des mois, voire des années. Il y a ça. Bon, là, on serait dans une crise structurelle profonde.
Durable.
Mais est-ce que l'Iran aura les capacités dans les jours, les semaines, les mois à venir, sa capacité de nuisance, de bloquer Hormuz, de détruire les bateaux qui osent
s'aventurer
comme ils le font, comme ils le tentent, ou est-ce que dans 15 jours, comme le dit Trump, ou même avant, tout sera fini, et voilà, il y a encore une fois un pouvoir ami des Occidentaux, et plus spécifiquement des Américains, sera au pouvoir à Téhéran. Bon, là, la crise, elle est finie. Dans ce cas-là, elle est fini dans 15 jours, si Trump ne se trompe pas, sans faire de jeu de mots. Donc voilà, c'est très incertain et c'est très volatile. On est effectivement qu'au tout début de cette crise. Mais en même temps, bon, après, vous allez peut-être l'évoquer, mais il y a des mesures qui ont été prises.
Oui, alors on va en parler.
Dans les réserves. Mais moi, une autre chose qui m'avait frappé, c'est qu'à peine deux jours après le début des attaques, les prix ont commencé à flamber.
Ça s'est enchaîné à vitesse délirante.
Et une semaine après, le prix de l'essence à la pompe avait augmenté de 100%. Donc là, il fallait saluer la réactivité des acteurs de ce secteur, parce qu'ils ont été vraiment remarquables. Ils sont même allés au-devant de la pénurie pour augmenter les tarifs. Alors, je ne sais pas qui est responsable exactement, mais c'est un mécanisme. Même, je me souviens, pendant la crise en Ukraine, le début sur la question du gaz ou plus tard des céréales, ça a mis beaucoup plus de temps pour nous, entre guillemets, nous impacter, comme on dit, que là où à peine les premiers missiles étaient tirés, que les prix flambaient.
Ouais. Alors, mais il y a des mesures effectivement qui ont été annoncées. Il y en a une qui d'ailleurs a été annoncée aujourd'hui, c'est le recours à ce qu'on appelle les réserves stratégiques. Et il y a 32 pays membres de ce qu'on appelle l'Agence internationale de l'énergie, dont la France, qui ont annoncé hier la libération sur les marchés de 400 millions de barils, soit donc, semble-t-il, le déblocage le plus important de l'histoire de cette institution. Est-ce que c'est un choix qui vous paraît judicieux, Bruno Seyan?
Alors oui et non, c'est-à-dire que ça va pas faire baisser les prix. D'ailleurs, on a bien vu ça.
L'instant, en tout cas, on l'a pas vu.
ils ont annoncé ça. Non, mais là où ça a un effet positif, c'est que ça rassure les gens qui sont en train de stocker. Effet, parce que quand vous passez devant un certain nombre de stations-service, vous voyez des gens avec des jerrycans qui sont en train de stocker.
Ça a commencé le jour même, ça.
Voilà. Hein. Donc je pense que ça, il faut rassurer les gens en leur disant il y a pas de pénurie. En réalité, il y aura pas de pénurie.
Oui, il y a une flambée des prix.
Mais même, je vous disais. Même en bloquant le détroit d'Hormuz, aujourd'hui, alors on paiera plus cher, donc ça.
Oui, parce qu'on peut en trouver ailleurs.
Ouais. Mais on s'approvisionnera ailleurs. Pendant quelque temps, on a le temps de le faire et on vivra sur nos stocks. Alors débloquer, ça ne veut pas dire qu'on va les utiliser.
Les utiliser, non.
Ça veut dire qu'on est prêt à les utiliser. Donc c'est juste un effet d'annonce, hein, et ça n'a aucun impact. Il ne faut pas s'attendre à ce que c'est un impact sur les prix. C'est un peu à viser pour rassurer. Mais je reviens sur la question de géopolitique, parce que derrière toute cette crise, il faut bien voir la question géopolitique. Il y a deux choses qui me paraissent intéressantes. La première, c'est la cohérence, quoi qu'on dise, et peut-être malgré lui, de Trump dans ce qu'il fait.
La politique étrangère de Trump.
Ouais. Oui, il y a une certaine cohérence. Le Venezuela, il met la main sur le pétrole où s'approvisionnaient les Chinois. Mmh. Or, le véritable conflit larvé, économique en tout cas, et même en termes de domination, c'est entre la Chine et les États-Unis, hein, c'est les deux mâles dominants de la planète, hein, et qui vont inévitablement, d'ailleurs René Girard l'avait prédit, ils vont inévitablement se retrouver face à face, et puis un jour ce sera peut-être l'Inde, mais c'est une autre histoire, mais pour l'instant c'est l'un sur la prééminence de ces deux grandes puissances, et Trump a mis la main sur une des sources d'approvisionnement du pétrole de la Chine. Et avec la guerre en Iran qu'il a déclenché, il essaye de mettre la main sur la deuxième source d'approvisionnement. Donc s'il y arrive, il tiendra les Chinois. Et donc évidemment, les Chinois ne veulent pas entendre parler de ça. Donc ça va amener quand même tout le monde, enfin en tout cas la Chine, et y compris la Russie, à calmer les Iraniens. Parce que je pense que c'est absolument pas l'intérêt des Chinois. Comme je vous l'ai dit, les Américains, ils n'ont pas besoin du pétrole du Moyen-Orient. En revanche, la Chine en a besoin. Au moins tant qu'ils n'ont pas construit les centrales nucléaires, et ça ne se fait quand même pas en 3 jours. Et les Russes ne peuvent pas non plus approvisionner complètement, pallier complètement le déficit. Donc y a besoin. Et du coup, c'est pour ça qu'on constate que les alliés de l'Iran, la Chine et la Russie, ils sont très mezzo voce dans ce conflit. Vous avez vu qu'ils n'ont pas trop pris, ils n'ont pas trop condamné, ils n'ont pas trop... Donc on ne les entend pas trop, ils ne disent pas grand-chose, et je pense qu'assez rapidement, ils vont dire aux Iraniens, calmez-vous. Alors le problème, c'est que les Iraniens, c'est des ayatollahs. Ce n'est pas des gens qui raisonnent peut-être comme nous.
Oui, mais il y en a qui ont beaucoup à perdre quand même.
Oui, mais ils sont un peu fanatisés, idéologisés par une religion qui est quand même extrêmement guerrière. Donc c'est peut-être plus difficile à gérer que le reste de l'Afrique.
Ou le Venezuela.
Mais n'empêche que moi, je prends le pari. D'ailleurs, c'est ce que je rejoins Christian Autier, ça ne va pas durer si longtemps que ça. Parce que, au fond, tout le monde va calmer les Iraniens d'une façon ou d'une autre, va leur dire ah, maintenant il faut arrêter le jeu. D'abord, les autres pays, les pays voisins vont leur dire attends, toute notre économie repose sur le tourisme,
le commerce, etc. Oui, mais enfin, les pays voisins ne sont pas forcément des amis de l'Iran.
Oui, mais ce ne sont pas des amis, mais enfin, l'Iran a besoin de. L'Iran ne peut pas complètement s'isoler. Donc, l'Iran a une frontière avec la Russie, effectivement.
Il est certain que si les Russes les laissaient tomber, ça les mettrait quand même.
Les Russes, ils sont quand même très occupés en Ukraine et ils sont pas en pleine forme non plus. Donc je pense que c'est la Chine. La Chine va avoir un poids considérable dans ce conflit et va les pousser à transiger.
Alors je reviens à nos petites histoires franco-françaises. Et parmi ce qui était proposé, là, il a été proposé de faire un contrôle des stations-service. Ça, c'est le gouvernement qui le propose, afin d'éviter les hausses abusives des prix. Vous pensez que c'est faisable de faire ça?
Non, ça c'est une grosse bêtise. On ne peut pas contrôler les prix, c'est bloquer les prix, comme l'aurait...
Alors EFI, il propose carrément de bloquer les prix.
Oui, voilà, bloquer les prix, c'est exactement comme si vous bloquez le couvercle d'une marmite et que vous gardez le gaz dessous, si vous voulez. À un moment, ça explose. Donc ça n'a jamais marché nulle part.
Peut l'imposer d'ailleurs aux distributeurs?
Non, on ne peut pas l'imposer.
Société privée, on ne peut pas
l'avoir. Alors, les distributeurs, on peut... contrôler via les services publics les marges de ceux qui approvisionnent.
Oui, les approvisionnent. Bon, oui.
Ceux qui approvisionnent, ils sont quand même pas très nombreux, et il y a notamment Total là-dedans, qui est une des plus grandes entreprises du monde et qui est extrêmement responsable, entre guillemets. Si l'État leur dit, bon, les marges, ça suffit, vous dépassez pas tel taux de marge et c'est tout, les distributeurs s'aligneront, parce que sinon Total les approvisionnera pas. Donc moi je crois que ça sert à rien de faire ça, il faut demander à Total, mais je suis sûr qu'ils le feront, d'être responsables là-dessus et de contrôler un peu la petite distribution. Mais c'est pas là que ça va se régler. Quoi.
Vous, Christian Autier, là, ces solutions qui sont proposées, bon, le contrôle à la station-service pour éviter les hausses abusives des prix ou carrément bloquer les prix d'énergie, vous pensez que c'est quelque chose qui une extrémité
le blocage, je pense pas qu'on arrive à cette extrémité. En revanche, les contrôles, je crois qu'il y en a eu entre 500 et 600
oui.
de stations. Il y a un taux de 5% de hausse abusive. Alors, ce qui est marginal, mais pas insignifiant quand même. Enfin, si vous avez le malheur de tomber sur la station qui est pas très honnête. Mais mais je pense que là, le gouvernement, effectivement, va prendre les mesures et piocher dans les stocks pour contenir les prix, parce que c'est le prix de l'essence, c'est quand même très très explosif. Ça peut faire
les gilets jaunes, c'était pas
voilà,
entre autres.
Ça peut. le gouvernement
c'est
ne peut pas se permettre
de le dire.
Voilà, d'avoir cette épée de Damoclès trop longtemps. Donc il y aura, je ne sais pas de quelle nature, mais il n'y aura pas de flambée.
Alors, il y a beaucoup de concurrence. Il faut faire confiance à la concurrence.
Oui, alors il y a autre chose, une autre possibilité. Ça, c'est le RN, par exemple, qui l'a proposé. Ça serait de réduire ponctuellement la TVA, enfin toutes les taxes qu'il peut y avoir sur les carburants, le fuel, le gaz. La TVA, puisqu'on appelle l'accise là, sur les produits pétroliers, qui s'appelait avant la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en cas de flambée des prix. Maude Bréjon, là, qui est la ministre déléguée à l'énergie, a dit si on fait ça, on va perdre 20 milliards de recettes dans le budget de l'État. Bon, vous savez dans quel état notre budget aujourd'hui. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager? En tout cas, pas de la baisser à ce point-là, mais en tout cas de l'ajuster peut-être, de façon à maintenir les recettes prévues dans le budget, pour que en fait, le citoyen, lui, n'ait qu'à payer la hausse du baril et non pas la hausse qui s'applique en plus sur les taxes.
Oui, non, mais ça, évidemment, c'est une solution possible. Le problème, c'est que l'État français étant ruiné, au fond, il fait une bonne affaire.
Ça, tout le monde a compris.
Il fait une bonne affaire avec la hausse des prix, puisque la taxe est basée sur le prix, et ce n'est pas une taxe fixe. Alors, ce que voudraient les gens, c'est qu'on mette une taxe fixe. Sur un litre, l'État prend X euros. Mais ça ne marche pas comme ça. Et effectivement, si on le faisait marcher comme ça, le budget de l'État en prendrait un sacré coup.
Pas forcément, si on l'ajuste pour maintenir ce qui est prévu dans le budget.
Une fois que vous aurez fait ça une fois, vous ne reviendrez plus en arrière.
Pensez qu'il y a, un cliquet qui se met.
Cliquet. Si vous dites l'État va prélever toujours la même somme, quel que soit le prix du litre,
vous pensez que les citoyens après ne comprendraient pas.
On n'acceptera pas qu'ils reviennent en arrière. Donc l'État français dépensier comme il est, en distribuant de l'argent dans tous azimuts, quoi qu'il en coûte, comme dit notre président, il a besoin que ça rentre de l'autre côté. Donc il ne peut pas se permettre de mettre une taxe fixe.
Vous, Christian Thier, cette solution, mais vous seriez pour si éventuellement c'était faisable? Le risque, c'est qu'on ne revienne pas en arrière.
Dans l'absolu, bien que je ne conduise pas, je suis pour que le tarif de l'essence et des carburants de toutes sortes soit le plus bas possible. Après, je vous avoue, sur les solutions techniques pour y arriver, je ne les maîtrise guère.
Parce qu'il faut savoir, et ça je pense que Bruno Cyr le sait, vous savez combien représente dans sur le prix de l'essence le montant des impôts et taxes. Vous savez la part que ça représente. C'est 55%.
Oui, c'est ça, c'est de l'ordre de
50%. C'est plus de la moitié quand même.
Oui.
C'est plus de la moitié.
Mais c'est un jackpot, évidemment. Mais l'État.
Donc évidemment, à chaque fois qu'il y a une hausse,
ce qu'il y a de ralent, si vous voulez, c'est que ça soit la TVA, que ça soit les taxes sur l'essence, c'est des postes qui rapportent le plus au budget de l'État. Et puis à côté de ça, nos services publics vont très mal. Donc c'est un peu la quadrature du cercle, c'est-à-dire que effectivement les gens se plaignent des hôpitaux, de la justice, des collèges, des lycées, des universités, etc. Donc les gens, avec de bonnes raisons, parce que c'est vrai que notamment dans le secteur de la santé, ça s'est beaucoup dégradé en quelques dizaines d'années. Bref, on ne va pas faire l'inventaire de tout ce qui ne marche pas, mais l'État a besoin de faire rentrer de l'argent. Et s'il veut maintenir le service public, ou alors il faut tout remettre à plat. Mais on n'en prend pas le chemin.
Oui, il y a la question maintenant, évidemment, c'est est-ce que cette situation va se prolonger ou non? Vous, Bruno Cyr, vous pensez que ça ne va pas durer?
Ça va se prolonger, c'est-à-dire que ce que je vous ai dit, c'est je pense qu'à un moment, le conflit va s'arrêter, ça ne va pas durer des années. En revanche, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on est rentré dans une phase de transition, c'est-à-dire qu'après, ça ne sera plus comme avant.
Ça veut dire que c'est un signal, une alerte dont il faut tenir compte.
C'est un signal, il va falloir apprendre à se passer des ressources pétrolières du Moyen-Orient le plus possible. Parce qu'on ne peut pas dépendre d'une artère jugulaire comme le détroit d'Ormuz, tenu par des gens qui sont des fanatiques. Donc ça, je pense que tout le monde a compris ça. Donc cette phase de transition, il va falloir la gérer.
Oui, mais cette phase de transition, moi, si j'ai bien compris ce que vous disiez, c'est qu'on va aller vers le quasiment tout électrique.
Le nucléaire, alors c'est pas nécessairement électrique, on produit de la chaleur avec le nucléaire.
Non, mais je parle pour faire fonctionner les voitures, le chauffage.
Vous savez déjà, les voitures, il y en a beaucoup d'électriques, et le chauffage, les pompes à chaleur, ça marche avec de l'électrique, etc. De plus en plus, on a quand même beaucoup basculé sur l'électrique, et on incite les gens à être un peu autosuffisants, à produire eux-mêmes.
Parce que là, on avait l'air un peu de ralentir, là, justement, ce qui était prévu, le calendrier qui était prévu pour passer au moteur électrique sur tous les véhicules.
Oui, là, on a voulu aller trop vite et on se rend compte que ça fait perdre énormément d'emplois en Europe. Et donc, évidemment, il ne faut pas aller plus vite que la musique, si vous voulez. Mais sur le long terme, c'est sûr que l'énergie fossile, et de toute façon, on va en sortir en grande partie, pas complètement. De même qu'on est sorti du charbon, mais pas complètement non plus. Il y aura toujours des mines de charbon, etc. Mais le projet du nucléaire aujourd'hui, c'est de produire de la chaleur, c'est-à-dire de chauffer les villes, de chauffer les maisons, et peut-être de, aussi,
ça, oui.
avec
oui,
l'électricité,
oui.
de
oui.
faire des moteurs à hydrogène, etc. C'est pas nécessairement...
Oui, de l'électrique stricto sensu. Oui. Vous y croyez, ce scénario, Christian Autier, à... assez court terme, si je vous
dis dans les 10 ans qui viennent, je pense que ça aura beaucoup changé.
Ouais. Oui, de toute façon, effectivement, les stocks d'énergie fossile vont, enfin ça, c'est, les spécialistes le ont sans doute prévu, ne seront plus exploitables ou vont se raréfier. Donc la conversion, elle est inscrite dans l'histoire. Après, effectivement, c'est une question de rythme et de mise en œuvre. Après, je voulais rebondir sur ce que disait. Moi, je suis moins convaincu pour la sortie hypothétique de cette crise par la rationalité des ayatollahs. Et leur éventuel retour à une réelle politique. Parce que ce qui a été frappant quand même, c'est qu'ils ont attaqué, alors certes avec des moyens réduits, mais des pays comme Bahreïn,
oui, Oman,
la Turquie, qui a leur apporté son plus grand soutien. Ils ont envoyé 2-3 roquettes sur la Turquie. Donc ils sont aussi assez, ils peuvent être dans une logique suicidaire.
Ouais.
Dire bon, c'est nous. Enfin, comme disent les deux parties, hein, c'est la victoire ou la mort.
Bon, enfin, quoi qu'il en soit, l'évolution des prix de l'énergie, puisque c'est le sujet, est avant tout conditionné justement par celle du conflit au Moyen-Orient. On va voir, hein, il n'est pas impossible que ça dure encore quelques temps, jusqu'à quand nous verrons bien. Avant de conclure, nous avons un peu de temps pour vos coups de gueule ou coups de cœur du moment. Eh bien, c'est Christian Autier qui va commencer.
Je ne sais pas comment le baptiser, on va dire plutôt coup de gueule, mais en même temps c'est un hommage et une pensée aux démocrates et aux défenseurs de la liberté de Turquie, justement, précisément, parce qu'il y a quelques jours a démarré à Istanbul le procès contre Ekrem İmamoğlu, qui est le maire d'Istanbul et qui est surtout le leader du CHP, le principal parti d'opposition laïque de centre-gauche, et auquel on prédisait un rôle décisif dans la prochaine campagne présidentielle. Donc il était en mesure peut-être de rivaliser, voire de battre enfin Erdogan. Et donc il a été emprisonné depuis plusieurs mois pour des motifs de corruption. Et je pense qu'il y a deux chiffres qui donnent un peu la nature du régime actuellement en Turquie. Le dossier d'accusation contre 3700 pages, donc il aurait développé, créé un réseau de corruption. Et il encourt une peine qui peut aller jusqu'à 2300 ans de prison. Donc voilà, on est dans on est dans le pays de l'absurdité totale, absolument effrayant.
Oui, moi j'ai une pensée émue, c'est ni un coup de gueule ni un coup de cœur, j'ai une pensée émue pour les chrétiens d'Orient.
Oui.
Je trouve que là-dedans, si vous voulez... notre monde catholique, chrétien, souffre beaucoup. Ce sont des gens qui ont essayé de vivre leur foi autant qu'ils ont pu. Et là, ben, on voit au sud du Liban, il y a des bombes qui leur tombent dessus. Le Liban, c'est quand même un pays ami de la France. La France a une responsabilité vis-à-vis du Liban. Ils ont une culture francophile. Ils sont proches de nous culturellement. Voilà, moi j'ai une pensée pour eux avec beaucoup d'impuissance, malheureusement, mais au moins pensez à eux.
Et il y a beaucoup de ressortissants libanais à Toulouse, rappelons-le, que ce soit des étudiants, mais aussi des gens qui sont installés ici. Donc on les salue et on les soutient. Cette 223e mêlée de l'info est terminée. Un grand merci à tous les deux d'y avoir participé. Merci également à Coraline Camembrac qui a réalisé cette émission. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et je remercie enfin tous les fidèles auditeurs et auditrices de la mêlée. Rendez-vous jeudi prochain. À bientôt. We'll be right back.